en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, En habit vert est consacré aujourd'hui à un grand biologiste, prix Nobel de médecine, professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur. Il siège à l'Académie française depuis 1996 et appartient également à l'Académie des sciences. Il s'agit de François Jacob. Son nom est connu des spécialistes pour ses découvertes à l'origine de la révolution technologique du génie génétique. Il a par ailleurs mis au point avec Jacques Monod un modèle décrivant l'interaction des différents types de gènes et des protéines lors de la transcription de l'ARN. Son nom est également connu du grand public pour la maison d'édition du même nom, tenue par sa fille Odile. Dans cette émission En habit vert, François Jacob retrace pour nous une partie de son parcours à partir de son livre La statue intérieure, publié en 1986. Il revient sur ses souvenirs de guerre, ses blessures, sa carrière de chercheur, le tout au gré de ses émotions. Tout de suite, le témoignage de François Jacob, enregistré à son domicile en juin 2007. Il répond aux questions complices et passionnées de Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine.
Vous aviez déjà écrit en 1970 « La logique du vivant », « Le jeu des possibles » en 81, et en 86, vous vous retournez sur vous-même, vous écrivez « La statue intérieure » et je ne vais vous interrogez que sur une petite partie de ce livre, c'est-à-dire François Jacob, médecin auxiliaire, mais François Jacob, soldat. Alors, dans une première partie, à laquelle il n'est peut-être pas très facile de répondre, c'est pourquoi, après avoir écrit « La logique du vivant », c'était l'histoire de la génétique. Vous renouveliez l'histoire de la génétique. Et pourquoi, 16 ans après, vous vous retournez, si je peux dire, sur vous-même? Qu'est-ce que, pour parler un peu vulgairement, qu'est-ce qui a fait courir François Jacob pour rappeler sa vie?
C'est une question à laquelle il me paraît très difficile de répondre aujourd'hui. Probablement que j'ai voulu me préciser un certain nombre de points de ma vie pour moi-même, sans plus.
Alors, quand on vous lit, vous donnez quand même des raisons. C'est l'objet du premier chapitre. Et la première raison, c'est l'appel d'un compagnon qui est venu vous voir un jour, un pasteur, qui était perdu, et puis vous avez une expérience à faire, vous ne lui parlez pas trop, et puis vous ne le revoyez jamais plus. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu, il s'est peut-être tué, pas tué, mais le silence. Bon, est-ce que déjà, ce souvenir vous a pas fixé dans l'idée que vous aviez un peu des devoirs, vous, après la vie que vous aviez eue, de le dire aux autres, de le raconter, de le transcrire, ou non?
Pas tellement. Je pense que c'est plutôt pour moi-même. Je voulais préciser un certain nombre de choses et peut-être essayer de trouver les raisons, si jamais il y en a, pour lesquelles j'avais fait telle ou telle chose.
Alors, une raison que vous évoquez tout de suite, c'est un livre pour l'avenir. Et je voudrais que vous poussiez un peu là, parce que c'est une sorte de paradoxe. D'écrire ces souvenirs pour votre avenir à vous, vous dites que vous êtes en permanence orienté vers l'avenir, que vous êtes plutôt un homme de désir que de jouissance, que vous voulez toujours avoir un programme, que vous voulez toujours préparer quelque chose. En quoi vos souvenirs vous préparent à quelque chose d'autre?
Ça prépare à écrire un livre, ce que j'avais encore pas fait, et que ça me donnait un but, une possibilité d'action, de faire un certain nombre de choses, d'avoir ce livre à écrire en remontant le temps. Au fond, c'était utiliser le passé pour faire de l'avenir.
Oui, et donc le désir, c'était quand même d'écrire. L'avenir dans l'écriture. Je force ou je vous...
Bon, c'était surtout l'avenir, et puis l'écriture, au début je ne savais pas très bien ce que j'en ferais de l'écriture. L'écriture c'est devenu progressivement, c'est devenu un plaisir peu à peu, mais pas au début.
Alors, autre raison, peut-être fausse, mais que j'ai cru trouver, c'est le fait que dans votre vie, vous avez été beaucoup de personnages. Bon, un enfant, ensuite un soldat, et quel soldat, ensuite un grand chercheur, ça fait pour un professeur au Collège de France, enfin, il y a toute une... Et qu'au fond, vous avez envie derrière ces plusieurs personnages, de retrouver la continuité. Je crois que c'est Bergson qui dit toujours qu'au fond, à l'intérieur d'entre nous, il y a ce qu'il appelle une intuition fondamentale, un point central, je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin bon. Et alors, vous
c'est
dites...
C'est exactement ce que j'ai appelé le statut intérieur.
Voilà.
C'est exactement la même idée.
Voilà. Bon, alors maintenant... Deuxième chapitre, si je peux dire, c'est comment la retrouver. Et là, il y a des chapitres. On est toujours dans le premier chapitre, mais il y a une série de pages où vous définissez votre travail. Alors, vous la définissez comme un sculpteur. Vous écrivez, cette statue intérieure, je l'ai affinée, je l'ai polie, la gouge et le ciseau. Ici, ce sont des rencontres et des combinaisons, des rythmes qui se bousculent, des chapitres que je découpe et que je redécoupe. Donc, vous définissez votre méthode de travail et le début de cette méthode de travail, ce sont les souvenirs. C'est comment vous faites pour retrouver les vrais souvenirs, parce que vous dites que les souvenirs sont engloutis dans le temps comme dans la nuit. Comment vous les retrouvez ? Et quels sont les souvenirs qui vont vous intéresser ? Parce qu'il y a des souvenirs...
Les souvenirs, on ne les fabrique pas, on ne les provoque pas. Ils viennent ou ils viennent pas. Et c'est ça qui m'a paru la chose la plus difficile au début, c'est que c'est parti, les souvenirs se sont présentés plus ou moins d'eux-mêmes.
C'est ça.
Sans que je cours après.
Vous dites, parfois le silence c'est l'absence de souvenirs, peut parfois se fissurer à l'improviste. Là où on l'attendait le moins, vient éclater à la surface de la conscience la bulle d'un souvenir, une vanité, un désir, une humiliation qui remonte du plus profond et fait renaître un monde disparu. Quel sac à malice que la mémoire.
Et... Oui, ça c'est à propos d'un souvenir que je raconte, qui est l'histoire d'une bagarre avec un de mes collègues qui m'avait traité de sale juif.
Oui, alors racontez ça, parce que dans le livre vous marchez tout le temps. Vous avez été très blessé, vous avez été très handicapé, mais dans le livre, vous ne cessez de parcourir Paris.
C'est vrai.
Et pour, je ne sais pas si c'est rechercher ses souvenirs, mais pour essayer de les fixer, vous retournez dans le lycée qui avait été le vôtre, qui est le lycée Carnot. Racontez comment, à Carnot, ce souvenir est né de la bagarre.
Ça, je ne me souviens plus très bien. Je crois que je suis repassé. Je suis allé en me promenant là, dans mes pérégrinations de l'époque. Je suis passé un jour... près de l'endroit où j'habitais quand j'étais gosse, et peu à peu, j'ai marché presque instinctivement le parcours que je faisais pour aller au lycée. Et quand je suis arrivé devant le lycée Carnot, je suis entré dans le lycée Carnot, et je suis tombé sur un certain nombre de choses qui m'ont rappelé des faits précis du passé, en particulier ce coin de cabinet où je m'étais battu avec un de mes collègues de lycée qui m'avait traité de sale juif, ce que je n'avais pas beaucoup aimé, et je l'avais balancé dans les cabinets.
Oui, et là vous racontez que c'est peut-être la première fois où vous vous êtes créé une individualité, car vous aviez deux solutions, ou bien laisser faire,
oui,
et c'était l'horreur et le mépris, ou bien lui casser la gueule, ce qui était à la limite de l'impossible.
Oui.
Et puis, pris d'une volonté farouche...
Exactement, je l'ai balancé dans le trou.
Alors qu'il était beaucoup plus fort que vous. Alors, bon, ça c'est le premier aspect, ce sont les souvenirs. Il y a un deuxième chapitre qui est très intéressant, et on voit que vous êtes en train... Vous êtes un écrivain, vous étiez déjà sans le savoir un écrivain, c'était les mots. Et vous dites que les mots recouvrent parfois des rencontres insolites. Le mot suicide est longtemps resté pour moi associé à des images qu'illustraient des livres sur l'Antiquité que vous montrait votre grand-père. Omnubilé. Racontez, un jour, je crois que vos parents parlent omnubilé. Vous n'avez pas très bien compris. Et
j'ai joué avec le mot. Oui, ça m'arrivait très souvent. Ça, c'est une des choses dont je me souviens de mon enfance. C'était de temps en temps de prendre un mot comme ça, on ne sait pas pourquoi, et de le triturer, de le manier, de le triturer.
Sans savoir vraiment son sens.
Non, sans m'occuper du sens.
Sans vous occuper
de
du
jouer.
Sens.
De Gaulle, c'est la même chose.
Voilà.
C'est la même histoire avec De Gaulle, Gogol et compagnie.
Oui.
Plus tard, mais ça a été la même. Ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais gosse.
Et à 20 ans, quand on vous parle de De Gaulle, vous recommencez. Oui, et vous écrivez, et puis il y avait ce nom. Parce que vous arrivez en Angleterre, est-ce que vous alliez aller avec les Anglais ? Est-ce que vous...
Ah ben, c'était pas clair du tout.
Oui, alors vous écrivez, et puis il y avait ce nom, De Gaulle, qui sonnait comme un défi, un programme, un coup de clairon, une charge de ses chars dont il s'était fait le stratège. Bon, vous continuez à jouer avec les mots.
Maintenant, ça m'a un peu passé. Ça m'a beaucoup moins qu'autrefois.
Mais vous l'avez fait longtemps ?
Oui.
Y compris dans votre métier de biologiste après ?
Probablement, moi. Je suppose qu'à partir du moment où j'ai eu un métier et une assise dans l'existence, je l'ai moins fait. C'était surtout avant, quand j'étais jeune, disons, et que je n'avais pas une existence précise, que je tournicotais à droite et à gauche sans savoir très bien ce que je ferais, ce que je deviendrais, etc.
Dans les souvenirs, j'ai oublié une chose, c'est quand vous vous souvenez de quelque chose, vous avez des images, mais jamais de son.
Oui, ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappé et qui me frappe encore maintenant. C'est-à-dire, je revois des choses de guerre, je n'entends pas.
N'entendez pas le bruit du canon ?
Non.
N'entendez pas les autres ?
Non, je vois des types qui courent, des types qui se font tuer, des types qui s'agitent dans tous les sens, des voitures, des chars, des machins. Mais c'est un film muet. Et je me demande si je suis seul dans ce genre-là. Ça vous arrive, vous, de...
Moi, j'ai des rêves idiots. J'ai des souvenirs idiots.
Non, mais c'est pas des idiots.
Moi, je crois que je me souviens. Je me souviens de... Oui, je me souviens de ce qu'on me dit pendant le rêve, ce qui me fait peur. Bon, mes rêves, ça n'a rien de glorieux, et c'est souvent très, 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 très angoissé. Alors, justement, il faut reconstituer et les sons et les mots, et là, vous travaillez en écrivain. Et j'ai beaucoup remarqué, enfin, tout le monde a remarqué dans votre livre, ce que je pourrais appeler le rythme, la découpe. C'est-à-dire qu'au début, à l'enfance, ça va assez bien, bon. Et puis la guerre, alors la guerre, vous mêlez tout. Vous faites bouger les chapitres, et le chapitre, non, mais c'est le refus de la chronologie. Autrement dit, le bateau qui vous conduit de Saint-Jean-de-Luz en Angleterre, le chapitre d'après, c'est-à-dire la page d'après, quand on tourne le livre, vous décrivez le bateau où vous allez débarquer. Vous revenez dans des conditions pas très très simples, mais quand même, vous redébarquez. Et cette espèce de découpe-là, on la retrouve d'une façon permanente.
Mais parce que quand j'ai commencé, enfin j'ai écrit le début, là, le premier chapitre, et puis quand j'ai commencé à me relire, je me suis dit c'est pas possible d'écrire une histoire linéaire, c'est ridicule, ça n'a aucun intérêt, il faut que j'essaye de la casser en morceaux et d'en faire des débris et de prendre les débris pour les recoller comme je peux.
Et alors après, comment vous les avez recollés ? Parce que c'est presque un... Vous aimez le cinéma ? C'est presque un montage de cinéma.
Ben, un peu.
Non, c'est quelque chose du... Je crois qu'on appelle ça au cinéma le montage. Il y a une monteuse ou un monteur. Il y a un type qui reprend les bouts et hop, et on redonne un nouveau rythme, là.
Mais c'est un peu ça.
Ah oui.
Et c'est un peu ça et c'était assez délibéré. Parce que je me suis dit, raconter une histoire de la guerre X années après, ça n'a aucun sens. Il y a des quantités de gens qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Il y a les historiens, il y a tout. C'est pas ça qui est intéressant. C'est pas ça que je peux faire.
Ouais, c'est-à-dire que là, vous faites vraiment un travail d'écrivain.
Oui.
Vous l'avez vécu, mais vous faites un travail d'écrivain. Bon, eh bien, on va retrouver cette méthode de travail dans deux grands chapitres. On peut pas parler. Encore une fois, nous ne parlons aujourd'hui que de François Jacob, médecin auxiliaire, qui va devenir médecin lieutenant. C'est quand même 1940, 1945, ou 46, parce que vous allez être blessé. Bon, c'est quand même 5 ans de la jeunesse. C'est quand même un temps qui est très très long, et un parcours
et ensuite,
que personne n'a.
5 ans après, d'une,
des conséquences.
D'une année vide.
Ouais.
5 ans vide.
Bon.
Ça fait 10 ans.
Dans ces 5 ans de guerre, il y a quand même un moment capital et horrible, qu'est la blessure.
Oui.
Et là, vraiment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous avez écrit comme un écrivain. Enfin, vous écrivez en écrivain, c'est-à-dire que vous réinventez un langage et on retrouve ce que vous avez dit, des mots. Il y a un premier temps, vous appelez ça des images. Point. J'en ai encore plein les yeux. Des images de sable et de soleil, le sable de cette petite plage transformée par les Américains en grand port industriel, le soleil de ces lourdes journées d'août devenues pour nous si légères, et puis les villages, Sainte-Mère l'église et son clocher, la Normandie et la guerre, les femmes entourées de haies d'aubépines et les carcasses de camions calcinés, les petits trous bordés d'arbres et de police militaire, l'odeur de foin et le son du canon, les matins qui se lèvent aussi clairs, aussi purs que s'il n'y avait pas eu de guerre, et les escadres avions qui partaient bombarder l'Europe, les pommiers tout tordus et les fils de prisonniers allemands, le verre de cidre dans une ferme et les rations de l'intendance, la méfiance des paysans et l'ardeur des hommes de la DB, la rumeur des tireurs isolés cachés dans les livres, et après l'orage de fer et de feu, l'accord des hommes et de terre qui semblait se renouer. Là,
c'est pas mal. Hein.
C'est très très bien.
C'est beaucoup mieux que ce que je...
Non, mais je lis très mal. Mais il faudra un acteur pour le ça. Parce qu'il y a vraiment un style. Bon, ça c'est la première partie. Et elle vient illustrer ce que vous avez dit, c'est des souvenirs. Des souvenirs que vous écrivez en 86, c'est-à-dire plus de 20 ans après. Ça reste encore très fixé dans votre... La Normandie d'août 44, 20 ans après, vous en souvenez encore parfaitement. Et puis la deuxième partie, c'est une sorte de critique de ces images. Et vous écrivez « image figée, image morte ». Vous cassez ce que vous venez de dire. Bon, j'ai beau m'évertuer, faire appel au bruit, aux odeurs, je ne peux retrouver la griserie, la folie de ces journées. Je revois des paysages, des visages, des scènes, mais ces souvenirs restent à plat, pour ainsi dire, ils manquent de profondeur. Ils ont perdu toute sève, tout ce qui nourrissait cette période et lui donnait, pour ceux qui l'ont vécu, un caractère à jamais unique. Comment produire aujourd'hui l'ivresse de ce retour? Comment retrouver ces états d'exaltation ou à la douceur de fouler à nouveau un sol longtemps cru à jamais interdit se mêlait à la violence qui nous poussait au combat. Comment à l'émotion du soudain comprendre dans chaque membre, dans chaque muscle, l'expression « terre natale » alliant encore la rage de vouloir laver cette terre de tous les matins d'agonie, de toutes les nuits de prison, de toutes les journées d'angoisse et d'humiliation subies depuis 4 ans. Et vous continuez, je peux pas, encore une fois je lis mal, mais vous continuez. Et comment éprouver encore la conviction alors ancrée en chacun de nous d'assister à la destruction d'un monde pourri et d'arriver à temps pour la reconstruction d'un autre monde tout neuf, tout beau, tout généreux. Bref, comment recréer maintenant cette certitude que nous avions de faire l'histoire, mieux, d'être l'histoire à l'état nu. Alors là, je trouve que vous redites parfaitement cette difficulté de la mémoire. C'est que maintenant, ressongeant à tout ça, il faut un texte très fort, très violent, pour vous retrouver vous-même. Ce que vous avez un tout petit peu oublié que vous étiez. Et puis, il ne faut pas en faire trop, parce que la blessure elle-même. Alors, la blessure elle-même, vous débarquez, je crois que vous débarquez le 1er août ou quelque chose comme ça.
Le 8, enfin, quelque chose comme ça, au début, oui.
Vous avez attendu dans ce décor, et puis un matin, après, une nuit plutôt, vous partez la nuit. Vous partez la nuit, on vous donne le signal de partir. Et soudain, avant même que ne s'ébranla la colonne, monta dans le lointain le vrombissement caractéristique des Junkers, le bruit grandit. Les avions se rapprochaient, invisibles, et les avions tirent. Alors, le réflexe du soldat que vous êtes, dans ces ténèbres qui devenaient folles, je restais immobile dans mon fossé, collé à la terre, se serrer contre elle au plus étroit, ne pas bouger, ne pas laisser un centimètre dépasser du fossé. Puis les convulsions cessèrent, le silence retomba, vite déchiré par les cris des blessés. Plusieurs hommes restaient à terre, et parmi ces hommes, un de vos copains, avec lequel vous partagez une copine, un lieutenant qui était votre ami, qui est à côté. Vous allez le voir, vous foncez sur lui, je lui souris, je voulus plaisanter, il me regarda tristement sans mot dire. Je commençais à fendre son blouson et sa chemise pour lui appliquer un pansement. Quand on a essayé de le soulever pour le mettre sur un brancard, il se mit à hurler. À ce moment, on entendit à nouveau, loin tout d'abord, le halètement régulier des Junkers qui revenaient. Le bruit des moteurs grandissait. Le visage tendu, il essaya de se dresser sur son séant, puis grimaçant de douleur, retomba. Le fossé était là, moins de 10 mètres, mais on ne pouvait déplacer mon ami. Les yeux grandis d'angoisse, il me prit la main. « Ne me laisse pas. » Tout le monde autour de nous courait se mettre à l'abri. Je regardais le fossé avec envie, pas question de l'y traîner ni de l'abandonner. Quand sifflèrent les premières bombes, je me serrais contre lui, autant pour me faire le plus petit possible que pour l'abriter un peu. Nous étions là, blottis, l'un contre l'autre, retenant notre souffle, immobile, seul. Pour la seconde fois, la terre trembla, se souleva dans un bruit de tonnerre, des mottes giclaient, si bien que me parut presque normal la secousse que je ressentis soudain avec violence sur le côté droit. Elle faisait partie, pour ainsi dire, du désordre qui venait d'ébranler dans la nuit ce petit champ de Normandie. Choc violent, mais sans douleur. Un instant, je restais sans bouger. Un instant que je cherchais à prolonger le plus possible, comme si je savais déjà que rien après, rien ne serait pareil. Une tache noire et poisseuse apparut sur mon coude droit, j'essayais de remuer la main, elle pendait inerte, je voulus me relever, en vain, alors seulement arriva la douleur, brutale, massive, intense. Je perdis connaissance. Quand je me réveillais, j'étais dans l'ambulance. Ça, c'est à la fois merveilleux et horrible, mais c'est un grand morceau de littérature. Malheureusement, c'est un peu scandaleux de dire que c'est de littérature, parce que c'était votre vie qui est en jeu. Mais dans la littérature, il n'y a pas tellement de moments où on décrit ça, parce qu'il faut l'avoir connu. Il y a un tableau de Géricault au Louvre, qui s'appelle Le cavalier blessé. C'est un peu ça. Il y a un moment, j'ai oublié si c'était le cavalier ou le cheval, mais là, ils sont collés l'un à l'autre. Alors là, je trouve que ce texte qui est un peu central de votre guerre, et qui malheureusement sera un peu le centre de votre vie, parce que vous allez en subir les conséquences.
Parce qu'après, tout ne serait plus pareil, comme je le dis là.
Bon, absolument. Mais alors, je voudrais reparler de cette vie militaire en la découpant, sans doute artificiellement, mais vous allez me corriger, dans des nuits.
Oui.
Parce que vous êtes un homme de la nuit et du jour, mais la nuit, vous êtes très présent. Et je trouve que votre livre est coupé et scandé.
Par les nuits.
Par les nuits. Alors d'abord, il y a la nuit de l'enfance. Racontez-nous, vous êtes gosse, vous avez peur, en vous endormant,
de ne plus
vous retrouver le lendemain matin.
Ah oui, ça c'était très précis ce truc-là. Maintenant ça n'existe plus, mais c'était très précis dans mon souvenir que je m'endormais en essayant de repérer tout ce qui était moi et tout ce qui me faisait moi, parce que j'avais peur le lendemain de ne plus être le même.
Et alors votre truc à ce moment-là, c'était de répéter ce que vous aviez fait dans la journée.
C'est ça.
Ou votre projet le lendemain.
C'est ça.
Un peu comme on compte les moutons, mais c'est plus drôle que de compter les moutons.
Et puis de savoir ce qui me définissait, les parents, les grands-parents, le truc, le machin.
Vous vous resituez.
Pour me resituer. Et tâcher que ça dure, ça enjambe la nuit.
Et ça marche à tous les coups.
Ah ben oui.
Vous dormiez vite et le lendemain matin, vous étiez toujours François Jacques.
Je suis le même.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet, de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémois, mais aussi le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Alors maintenant, on va reprendre les nuits de guerre. Alors, il y a cette nuit, qui est quand même très émouvante, qui est celle où vous êtes sur le bateau, qui est un bateau qui conduit, je crois, essentiellement des Polonais,
oui.
Où vous avez
le
été... Oui, vous avez été de Saint-Jean-de-Luz à...
Southampton.
À Southampton. Comment vous êtes arrivé à ce bateau?
À Saint-Jean-de-Luz?
Oui.
Eh ben, je suis parti de Paris avec... Trois copains, nous étions quatre, oui. Nous étions quatre. Les Allemands arrivaient, une voiture, c'est moi qui avais une voiture, j'avais une 11 légère.
Oui.
Et on est descendu avec ça, on est passé à Vichy où était mon père. Et puis j'ai vu deux ou trois personnes en descendant. Et en particulier un de mes oncles que j'appelais l'oncle Henri.
Qui était le médecin de la famille.
Qui était le médecin, qui était un grand barbu, qui était un personnage... Il y avait deux personnages importants dans ma famille. Il y avait le grand-père, le général, et puis lui, le médecin, qui était un personnage assez fort. Et alors lui m'a dit, si tu peux partir, va-t'en. Alors ça n'a fait qu'encourager mon truc, et nous sommes descendus alors avec les autres dans la voiture. Et en arrivant à Saint-Jean-de-Luz, les autres se sont dégonflés, sauf un, qui était mon camarade d'enfance avec qui j'avais été au lycée et qui est parti avec moi et qui a été tué en Afrique d'une sanglée dans le cœur. Et c'était un type épatant. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'il avait un frère aîné qui était à Alger et qui a été tué le jour de la bataille d'Alger, quand les Américains ont débarqué, a été tué d'un coup de revolver par un adjuvant du 5e chasseur.
Français.
Un pétiniste.
Ah là là là.
Ouais, qui lui a tiré une balle dans le dos.
Ah
oui,
c'est pas vrai.
Les deux fils, hein, ça c'était. Ah, ouais.
Bon, enfin vous.
Ouais, c'est comme ça.
Vous partez avec votre copain. Ouais. Alors, vous faites passer pour les Polonais, je ne sais pas comment vous l'avez fait, parce que c'était. Ouais. Bon. Et puis vous décrivez ce bateau. Ou plutôt la nuit sur ce bateau.
Oui.
C'est la nuit. Alors, c'est tout calme. Hein. C'est une belle nuit.
C'est très
calme. On peut presque oublier la guerre. Et vous parlez aux uns aux autres. Et j'essaie de retrouver la page que je n'en trouve pas.
Il y a un type qui me dit que c'était une chance unique de quitter ma femme et ma belle-mère.
Oui, ça c'est une autre motivation qui n'était pas franchement la vôtre. Mais vous imaginez surtout, parce que vous longez, vous remontez vers Southampton, donc vous longez, je ne sais pas si vous la voyez, parce que vous êtes assez loin quand même, la côte française, mais vous imaginez la côte française avec les divisions allemandes qui descendent, descendent. Bon, ça c'est une première nuit. Alors ensuite, la deuxième, enfin, une des autres nuits dont vous parlez, vous êtes descendu avec Leclerc vers l'Afrique, et la nuit de Libreville qui a lieu le... Alors, très souvent, ces nuits ont lieu, sont situées le 31 décembre. Donc, 31 décembre 1940. Bon, il faut imaginer, parce que, au fond, on a un peu oublié, que vous n'étiez pas sûr de revenir un jour en France. On pouvait très bien imaginer que la France était définitivement pétainiste, définitivement pro-allemande.
On était très conscients.
Et que vous étiez conscient de ça.
Oh, oui,
et que vous alliez devenir anglais ou américain.
Très conscient.
Je sais pas quoi.
N'importe quoi.
Oui, enfin bon.
Non, mais peut-être qu'on ne reviendra jamais. Ça, je crois que je le dis.
Oui, absolument. Oui. Bon, la nuit de Libreville, vous avez ce que vous appelez le mal de Paris. C'est-à-dire que vous avez parlé avant de votre mère, vous avez parlé avant de votre famille, mais pendant la guerre, vous n'en parlez plus. C'est comme si c'était quelque chose que vous vouliez oublier.
Coupé.
Bon, tandis que là, vous êtes dans un petit bistrot dégueulasse, un seul disque, un tango qu'on joue encore et encore jusqu'à satiété, ça ne fait qu'accroître mon mal de Paris. Où est mon père? Que fait-il? Que pense-t-il? Et les copains? Sont-ils retournés sans histoire à la faculté? Et Odile, a-t-elle fini par épouser ce type avec lequel elle s'était fiancée? Et maman, votre mère est morte, je crois, juste...
Le 2 juin.
Ah, c'est ça.
2 juin 40.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a eu, entre guillemets, la chance de ne pas voir cette horreur. Bon, et vous écrivez, mieux vaut qu'elle n'ait pas vu tout cela... Longtemps, vous marchez vers la mer. Là, c'est vraiment le coup de bourdon. Et c'est vrai qu'on imagine mal, parce qu'on vit toujours l'histoire mal, nous, maintenant. Bon, que vous étiez dans une situation à la limite de l'impossible et du pari. Bon, autre nuit, 41, toujours le soir, Fort Archambault. Bon, alors là, vous êtes médecin auxiliaire, c'est aussi sinistre.
C'est de la rigolade, là.
C'est une plaisanterie.
Oui.
31 décembre 42, on avance, le soir. Quelque part au Faisan.
Ah ben ça, c'est dans le... Oui, ça, on monte.
Alors là, vous redevenez soldat,
si je peux dire. On monte avec les camions.
Et vous décrivez la difficulté de rouler dans l'obscurité. Vous êtes collés les uns contre les autres, et l'obsession, c'est de ne pas tomber sur un rocher ou sur une nappe de sable et de vous engloutir.
Puis il y a une autre obsession, c'est de ne pas se trouver de ne pas se perdre.
Ah oui.
Parce que se perdre dans le désert, ça, c'est un truc terrible. Ça m'est arrivé une fois. Le camion, on a eu une panne. La colonne a continué et on a les types, il y avait un sergent qui conduisait, qui a réparé la panne. Et puis là-dessus, normalement il y avait des traces qui donnaient mais dès qu'il y avait un coup de vent,
oui, ça, il faut encore les voir. Donc il faut coller.
Et alors rien. Et heureusement, alors on s'est retrouvé là complètement.
La nuit ou le jour?
La nuit. Et puis, brusquement, grande flamme à l'horizon, c'était les copains qui mettaient le feu pour qu'on
vous retrouve.
Et on a mis le cap sur la flamme et on arrête.
Oui, on n'imagine pas l'horreur.
C'est pas marrant, hein, là.
Ah, oui. Et vous étiez, vous, dans une Jeep, dans une sanitaire?
Non, on était une espèce de camion où il y avait... on était en général, il y avait un officier, un sous-officier devant, qui conduisait, puis derrière des tirailleurs, une douzaine de tirailleurs qui se tenaient tant bien que mal au bastingage. Et de chaque côté, il y avait ce qu'on appelle les gerbas. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les gerbas. C'est des pots de chef dans lesquels il y a de l'eau qui se rafraîchit.
Ah oui.
Alors on buvait à la gerba comme ça, c'était de l'eau fraîche.
Les tirailleurs étaient
noirs.
Étaient noirs.
Ouais. Enfin, à cette époque-là, ils n'ont pas été noirs longtemps parce que Leclerc n'a pas voulu les emmener très loin. Mais au début, ils étaient noirs et puis après, ils sont devenus blancs.
Bon, et puis ensuite, alors, il y a une autre nuit qui est superbe dans le sud tunisien, mars 43, où vous venez, alors je crois que ça s'appelle Ksarilan. Bon, et vous venez de connaître une journée effroyable, mais vous aviez gagné.
Oui, c'est bon. Ça, c'est le baptême du feu.
C'est-à-dire, c'est la première fois, avant, vous étiez en contact à Faisan, par exemple, avec les Italiens. Et Leclerc était malin, les Italiens, il les avait à tous les coups. Mais là, vous vous trouvez en face des divisions allemandes, et c'était du sérieux, sérieux. Alors, il y a un texte très dur, journée d'épreuve, journée d'exaltation, journée d'attente, journée d'incertitude, journée de victoire, et puis journée de jouvence. Et puis, le soir, toujours le soir, alors, vous décrivez quelque chose de tout à fait différent. C'est sur vos amis, sur vos compagnons, sur les gens qui sont avec vous, ce que vous appelez un visage nouveau, un sourire nouveau, le visage d'un sourire. Et vous les prenez un à un.
En finissant par Leclerc.
Et oui, absolument, pour montrer qu'est-ce que c'est que le sourire. Alors, le sourire du sous-lieutenant qui est votre copain, le sourire du lieutenant qui est un connard, le souvenir de... Enfin, un connard. Bon,
bon.
Le sourire du sergent qui était un bon normand et qui ne pensait qu'au pommier. Toubalba, c'était votre infirmier.
C'était mon infirmier.
Qui détestait le lieutenant. Et puis quand même le souvenir du général. Et là, je voudrais qu'on s'arrête 3 minutes. Parce que c'est un souvenir rentré, c'est mieux que les souvenirs de Reims. Mais ce sourire plus mince, plus réservé avec sous la petite moustache, quand le général pense à nous voir pendant son inscription de la position, mais ce qui démentait l'apparente impassibilité de Leclerc, sec, droit dans son battle dress, c'était sous la chéchia bricolée en képi, les petites rides autour des yeux, plus nombreuses, plus accusées qu'à l'habitude, comme si la joie restait intérieure, comme si sa jubilation éclatait en dedans. Un sourire dans la littérature, c'est pas tellement fréquent. Dans ce monde qui n'est qu'une horreur, parce que maintenant, ça paraît très beau, parce que ça s'est bien fini. Bon, ensuite, alors il y a d'autres nuits qui sont moins... Mais toujours avec le rythme du 31 décembre. Il y a Rabat. Bon, Rabat, vous prenez la garde, parce qu'il fallait un médecin pour prendre
si,
la garde.
J'avais une rage dedans. Alors, tant qu'à faire, il valait mieux que les autres aillent s'amuser, que je reste avec ma rage dedans et la garde.
Et puis, vous prenez un médicament et vous roupillez. Et heureusement qu'il n'y a rien à faire pendant la garde. Et puis, alors, très angoissante, la nuit du 31 décembre 44, c'est-à-dire après la blessure, au Val-de-Grâce.
Ah oui.
Alors, le matin ou l'après-midi de ce 31 décembre, vous aviez reçu la visite de votre père. Et puis, alors là, vous décrivez, il faut absolument que je le retrouve, parce que vous expliquez ce que tous les malades savent et ce que les médecins ignorent, c'est quand on est couché, la seule
tout
chose...
Tout se passe au plafond.
Ah oui. Alors, c'est très intéressant, parce que votre plafond, ça devient un écran de cinéma.
Oui.
C'est-à-dire, alors, vous le décrivez, rectangle, tendu, etc. Et puis, vous y voyez... des saintes femmes, des bagarres, et puis Paris. Parce que vous connaissiez quand même un peu Paris, vous aviez vécu pendant 20 ans, mais Paris vous est fermé puisque vous êtes coincé entre vos plâtres et entre les opérations. Bon. Alors, autre nuit, sur laquelle vous allez beaucoup revenir, qui fait presque l'objet d'autres ouvrages, c'est, alors vous êtes devenu un chercheur, et la nuit du chercheur, c'est-à-dire, ça rentre dans le cadre... La science de jour
science
et
de
la
nuit.
Science de nuit. Alors, la science de jour, c'est facile. C'est le bon article, contrôlé, clair. Vous appelez ça un jardin à la française. Décrivez-nous la science de nuit. Où ça va se passer? Où ce jardin va naître? Mais au début, on est dans un monde tout à fait différent. Écrivez-nous ce... Et vous l'éprouvez encore, ça?
Oh non, c'est fini, ça.
Mais vous l'avez beaucoup éprouvé.
Oui.
C'est-à-dire le désordre, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien.
Le désordre, mais c'est le désordre d'où
productif.
Viennent les idées.
Non, oui, productif, oui, oui, oui. C'est-à-dire la possibilité de faire encore une synthèse.
La possibilité d'avoir des étincelles.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on mélange tout. Et dans ce cas-là, vous notiez la nuit?
Non. D'abord, je ne pouvais pas avant. J'avais du mal. Hein.
Oui.
J'étais immobilisé. Au début, j'avais un plat qui me tenait le bassin et la jambe droite, et le thorax et le bras droit. Je ne pouvais pas bouger. Ça a duré pendant un mois. Ça, c'était terrible. Pour me ramener de Cherbourg, parce que j'ai été évacué d'abord sur une ambulance américaine, puis de l'ambulance américaine à Cherbourg, puis de Cherbourg à Paris, et alors là, j'avais dans le train, j'avais un énorme plâtre qui me tenait, je vous dis, la hanche, et toute la jambe droite, et un autre qui me tenait le thorax et le bras droit. J'étais complètement ébahi, je ne pouvais pas bouger, j'étais comme un crabe sur le dos.
L'horreur, quoi.
Oui.
Mais cette nuit du chercheur, cette science de nuit, vous l'avez connue à Paris. Vous l'avez connue quand vous étiez un pasteur. À ce moment-là, vous notiez ?
Non.
Mais vous retrouvez le lendemain. Ou la bonne idée réapparaît le lendemain.
Oui.
Et vous n'avez pas un petit remords d'avoir oublié un petit truc ?
Non, il y a une époque où j'avais un carnet à côté de moi et un crayon.
Quand même, ouais.
Mais c'est rare que j'ai noté des trucs.
Mais ça c'est important parce que ouais. Bon, et puis dernière nuit, parce que il y en a sûrement eu d'autres, qui est ce qu'on appelle la nuit des enfants. Et vous écrivez, parfois la nuit, je me réveille en sursaut, en sueur, haletant, osant à peine respirer, immobilisé par l'angoisse. Abasourdi de me trouver dans cette chambre, d'être sorti du cauchemar, de ne pas me trouver dans le djebel tunisien à défiler sous la lune devant la mitraillette du soldat nazi, je me lève et je me glisse dans la chambre des enfants. Seuls ces visages d'enfants pouvaient effacer les visages des morts. C'est-à-dire que très longtemps après la campagne du Tchad,
ça revient.
Et au fond, la seule justification de tout ce que vous avez fait, c'était des gosses qui dorment.
C'était les enfants qui dorment.
Bon, écoutez, il faut que maintenant nous parlions rapidement de la place de ce guerrier que vous avez été et combien douloureux. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'opérations et après beaucoup d'arrêt moral. Vous ne saviez plus quoi faire.
Ah oui, j'étais perdu.
Alors, les médecins ont tout fait pour que vous ne soyez pas médecin. Et ça, c'est la tradition. C'est-à-dire que vous pouviez être médecin, mais vous aviez envie d'être chirurgien, vous ne pouviez plus l'être.
Ça, c'était fini.
Vous ne pouviez plus être interne. Ouais. Bon, ouais. Pour des raisons soi-disant administratives. Et puis, vous traînez là un peu. Vous vous embêtez. Vous allez à la rue Alexandre Cabanel, qui est maintenant devenue l'Alexandre Cabanel, la rue de la transfusion sans cure. La rue Alexandre. Où vous commencez quand même à manier les boîtes de pétri, non ?
Un petit peu, oui.
Mais enfin, pas très bien.
Et... Non, oui, mais j'étais très maladroit. J'ai essayé une fois d'isoler. Je me suis dit, j'ai essayé d'isoler un antibiotique. J'ai pris de la terre de Cabanel, je l'ai mis sur une boîte de pétri. Il y a quelque chose qui a poussé. Ça inhibait des bactéries. Je me suis dit, ça y est. Et c'était un truc que tout le monde connaissait depuis 10 ans.
Bon, mais enfin, là, ça a quand même été beaucoup d'années d'angoisse.
Ah, oh, ben oui.
Et puis, vous vous trouvez un pasteur. Alors. C'est la fin du livre qui est au moins aussi importante, parce que la fin du livre, dont le centre va être la nuit où vous découvrez quelque chose. En tant que pasteur, c'était pas la nuit, mais c'était le soir.
Oui.
Et c'était plus le plafond du Val-de-Grâce, mais c'était un écran de cinéma où devant un film X, vous trouvez l'idée. Et vous essayez de téléphoner à tous vos amis qui sont
qui
pas là.
Qui s'en foutent éperdument.
Voilà.
C'est ma femme qui m'a dit, mais il y a longtemps qu'on connaît cette histoire. J'étais complètement écœuré.
Oui. Bon, la place du guerrier dans les autres personnages que vous deviez incarner. Alors, là, malheureusement, la grande place, c'était la blessure. C'est-à-dire une sorte de marque indélébile. Et ça, malheureusement, ça va vous gêner toute votre vie.
Ah ben oui.
Vous pouvez aujourd'hui... comme un pasteur, comme...
Je suis obligé de marcher avec une canne.
Oui,
mais... J'ai ce bras qui ne marche plus.
Enfin, il marche un peu, là.
Enfin, il marche, mais je ne peux pas...
Oui.
Je peux pas opérer.
Oui, oui c'est ça. Mais tant mieux. Vous avez peut-être été un grand chirurgien, mais vous avez été un si grand biologiste que les biologistes, que la médecine a gagné avec vous.
Un très bon chirurgien.
Oui, sans doute. Non, mais quand même, il y a peu de gens qui vont s'ouvrir de 20 ans à... pendant 40 ou 50 ans après. On oublie les blessures, quoi qu'on dise. Parce que vous pouvez...
Non, ben non, ça, il n'y a rien à faire. Ouais. J'ai du mal à marcher. Ouais. Il me faut une canne, je boitille. Non, là, c'est...
Et vous marchez, quand même, vous avez beaucoup... Dans votre lit, vous marchez toute la journée.
Oui, mais ça ne s'améliore pas avec le temps.
Mais enfin, vous aimez... Alors, le problème, c'est que vous adorez marcher.
J'aime beaucoup marcher dans Paris, en particulier, oui.
Bon, deuxième, si je peux dire, marque de cette guerre, c'est votre caractère. Et alors ça, c'est ce que remarque... Votre patron, André Lvov, vous lui montrez une expérience qui avait un peu marché, ou sans doute déjà très bien, et puis vous allez lui dire peut-être qu'il faut que j'aille plus à la faculté des sciences, acquérir des certificats ou je sais pas quoi, apprendre d'autres méthodes, et il vous y répond, vous écrivez, la recherche c'est d'abord une affaire de flair, mais aussi de ténacité et d'entêtement, défaut dont je crois avoir compris que vous n'êtes pas totalement dépourvu, si j'en juge par votre histoire pendant la guerre. Avouez que c'est bien dit, et avec beaucoup,
il parlait très bien,
hein. Beaucoup de pudeur.
Il était très élégant.
Ah oui, et en même temps, il ne vous dit pas vous avez été un héros, vous dites pendant les guerres vous avez été pas mal. Alors que, bon, et puis, et ça je crois que ça va vous marquer beaucoup, c'est une méthode de travail. Et racontez-nous, vous, quand je crois quand vous projetez une expérience ou n'importe quoi, quelque chose que vous allez faire, vous parlez quand même comme un petit-fils de général.
Absolument.
Et comme un soldat que vous avez été.
Surtout plus comme le soldat que oui, absolument. Je raisonnais en soldat, on attaque, on se défend, on fait ceci, on fait cela, mais on fait mouvement, on voit bien.
Mais c'est ça, vous raisonnez en militaire,
absolument,
en stratège.
Absolument,
ah, oui.
Ou je dirais en soldat.
Oui, en soldat.
En troufion.
Alors, tout ça, ça se termine, cette histoire de guerre, en 1900... Enfin, ça se termine pas, puisqu'on voit les traces que ça vous a laissées. Mais vous écrivez un article qui devait faire de vous ce que vous êtes devenu dans la science. Je crois dans les annales de... Le journal de biologie moléculaire, qui s'appelle...
Gimolbiol.
C'est ça. Le mécanisme de la régulation génétique de la synthèse des protéines.
C'était l'article avec Monod, qui était l'article Princeps.
Wolf n'était pas au co-auteur, c'était Monod.
Non, il n'était pas co-auteur.
Non. C'était Monod et vous,
c'était Monod et
1960,
moi.
Et vous aviez commencé à travailler en 1951.
C'est
ce qui
ça,
est quand même formidable, en 9 ans,
110 ans
d'arriver à déplacer les choses quand même avec cette force.
J'ai beaucoup de chance là.
Non, de chance, oui, on la mérite. Oui.
Oui, enfin...
Non, vous êtes tombé au bon moment avec des gens...
Non, ce que j'ai trouvé, j'ai compris, j'avais deux copains qui étaient normaliens, qui connaissaient bien le paysage, que je connaissais absolument
scientifique.
Pas. Scientifique. Et alors, moi, j'avais compris aussi qu'il allait se passer quelque chose entre génétique, biochimie et... Il y avait trois trucs, je ne sais plus. Et bactéries.
Ah oui, bactéries, le matériel.
C'est ça.
Ah, ouais.
Et qu'il y avait deux endroits où on pouvait faire ça, qui étaient chez Lvov ou chez Frussi. Et Frussi était professeur de génétique...
À la Sorbonne.
Ah il non. était professeur à la Sorbonne, mais il était à Orsay.
Orsay, oui.
Mais c'était un personnage insupportable.
Ah oui.
C'était un type très étonnant. C'était un Russe, un grand type avec une gueule formidable. Un jour, il arrive dans son labo. Il y avait un de ses élèves qui était en train de faire une expérience. Il lui demande qu'est-ce que vous faites là. Et il lui dit je fais telle expérience. Mais nous n'en avons pas parlé. Il faut ici. Il dit, non, monsieur, mais j'ai pensé que c'était une expérience intéressante. Il prend les tubes et les fout dans l'évier.
Personnage odieux.
Un personnage particulier. Donc, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y avait donc deux labos, Effrussi et Lvov, mais qu'il allait mieux vivre avec Lvov qu'avec Effrussi. Et alors, je suis allé voir Monod, qui était moins impressionnant que Lvov, plus jeune, qui m'a dit écoutez, ici, le patron, c'est Lvov, allez voir Lvov. Je suis allé voir Lvov, qui m'a dit j'ai pas de place pour vous. Et pendant un an, je suis retourné tous les mois en disant monsieur, je voudrais bien travailler avec vous. À la fin, il en a eu tellement marre qu'il a dit bon.
Ce jour-là, il n'a pas perdu son temps. Bon, et le livre se termine sur la neige sur le Luxembourg.
C'est
et
ça.
Puis, le raisonnement scientifique vous a tellement marqué que, devant ce paysage du Luxembourg, l'obsession, c'est l'expérience de
oui,
demain.
C'est ça.
Une idée d'expérience. Là, c'est c'est devenu votre manière de penser. Vous êtes rentré dans une nouvelle manière de raisonner. Non, qui est très productive. Alors maintenant, nous sommes en 2007, vos projets. Vous qui êtes un homme d'avenir.
Mes projets, je vais partir en vacances d'ici.
Oui, mais
pas très longtemps.
Pendant les vacances, après les vacances, vous êtes un homme de projet. Donc, et vous dites que la seule chose qui vous intéresse, c'est l'avenir.
Oui.
Est-ce que...
Mais là, j'en ai plus beaucoup de projets, malheureusement.
Faut en retrouver, là. Parce que je vais parler d'une manière idiote. Mais vous avez encore des devoirs. Parce qu'après, il s'est passé beaucoup de choses.
Après quoi vous...
après la fin du livre.
Oh oui, bien sûr.
Ah bah oui, mais tout ça, vous savez, personne ne le sait. Comment vous êtes sorti des bactéries pour passer à la souris? Alors vous l'avez un peu écrit, mais bon, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que sont devenus les compagnons? On ne sait même pas, vous êtes compagnon de la Libération. Votre promotion, vous êtes passé de médecin auxiliaire à médecin lieutenant. C'est bien, mais enfin bon.
Vous m'avez nommé capitaine.
Excusez-moi, capitaine. Non, mais tout ce côté... compagnon, comment la biologie moléculaire, sans doute plus, comment De Gaulle a pris, a fait progresser la biologie moléculaire, sans doute un peu marqué par vous. Parce que quand il fallait choisir, il préférait un de ses compagnons plutôt qu'un scientifique de la Sorbonne. Enfin, je ne sais pas, non, mais j'imagine que... Bon, enfin, quand même. Bon, et vous avez encore plein de choses à raconter. Et puis, vous savez écrire. Ce n'est pas tellement fréquent. Non, on sent que vous aimez ça. C'est comme les boîtes de pétri, quoi. Quand il fallait les compter, ben vous, gardez le texte que vous avez...
J'ai des anecdotes avec De Gaulle. J'en ai deux ou trois. J'en ai une en particulier. Un jour, il y avait une réception, je ne sais pas où... Et je crois que c'était des compagnons de libération. Alors je traînais et ah bonjour, Jacob, content de vous revoir, qu'est-ce que vous devenez? Bah, je fais de la biologie. Je dis, ah, c'est très intéressant. Où ça? Là, je suis pasteur. Ah, c'est très intéressant. Vous avez ce qu'il vous faut? Non, mon général, au revoir.
Non, parce qu'il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Non, non, mais il n'avait pas oublié. Mais il disait qu'en France, il y avait deux choses auxquelles on ne pouvait pas toucher. C'était le Sénat et l'Institut Pasteur.
Non, il y a trois choses. Ouais. C'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, qu'est-ce qu'il y avait?
Le Sénat, je crois.
Non, ce n'était pas le Sénat. La Tour Eiffel, le Collège de France et l'Institut Pasteur.
Ah oui, voilà, le Collège de France, c'est mieux. Oui, oui. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter. Mais encore une fois, il faut que vous remettiez à l'écriture. Vous écrivez n'importe quoi, mais vous aimez ça, donc vous ne pouvez pas être mauvais, vous ne pouvez être que bon. Et il faut absolument que la jeune génération relive ce livre. Alors, quand même, je le situe. Il a été publié en 86 par Odile Jacob. En tout cas, merci encore.
Merci à vous.
Non, moi, j'ai rien fait du tout, mais merci de m'avoir donné le plaisir de vous relire.
Ainsi se termine cette interview complice entre François Jacob de l'Académie française et le professeur Jacques Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine. François Jacob recevait Jacques Louis Binet à son domicile en juin 2007 pour un témoignage consacré à sa grande carrière de biologiste à l'origine du génie génétique et prix Nobel de médecine. Retrouvez d'autres carrières d'académiciens sur le site de Canal Académie à la rubrique En habit vert. Ces émissions sont toutes en ligne. Libre écoute et libre téléchargement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles émissions sur Canal Académie.